Je propose que nous continuions le sujet, ou un des sujets essentiels qui a été devant nous ce matin. Je relis Philippiens 2, la fin du premier paragraphe. C'est d'ailleurs une exhortation, si nous commençons au verset 5. Philippiens 2, verset 5, qu'il y ait donc en vous cette pensée, cette façon de penser, cette orientation des pensées, qui a été aussi dans le Christ Jésus. Alors quel exemple donne-t-il? Le Christ Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même. Il s'est vidé, il s'est dépouillé. S'est anéanti lui-même, ce que nous ne pouvons pas faire. Là, alors, il n'est pas notre modèle, on ne peut pas s'anéantir nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui pouvons changer de position, c'est une prérogative divine. Alors lui s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et puis alors, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Ce qu'il est, ce qu'il a fait. Sa gloire morale et son œuvre. La récompense, c'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom, le seul, au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse, reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour introduire le sujet, je lis la fin de Marc, la fin de l'Évangile selon Marc, qui figure sur le commentaire, qui est le commentaire, si je ne me trompe pas, de calendrier Bonne Semence aujourd'hui. Les derniers versets de Marc 16, et c'est notre sujet. Alors le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Je ne veux pas reprendre le commentaire du feuillet Bonne Semence, pourrons-nous y reporter si nécessaire. C'est donc la récompense, la concrétisation du service parfait, du parfait serviteur prophète selon Matthieu, selon Marc nous le présente. Je propose que nous regardions alors les quatre fois où nous voyons le Seigneur soit s'asseoir et la quatrième être assis dans l'Épître aux Hébreux, avec l'application concernant qui il est lui-même et la quatrième rejoint les cantiques que nous avons chantés au début de ces moments. Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Dieu, ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé en Fils. Voilà, si vous direz, le décor planté. Voilà le sujet de cette épître. Dieu nous a parlé à plusieurs reprises, en plusieurs manières, par les prophètes. Et puis, à la fin de ces jours-là, une fois que l'épreuve a été faite de l'état irrémédiable de l'homme, alors Dieu nous a parlé en Fils. Et cela correspond à Marc 12. J'ai encore un unique Fils bien-aimé, je l'enverrai. J'ai encore un unique fils bien-aimé. Je l'enverrai. Peut-être auront-ils du respect pour mon fils. Dieu nous a parlé en fils. Mais alors il faut que ce fils ait des qualités bien autres et supérieures que celles des prophètes. D'où ce premier chapitre de l'Épître aux Hébreux va nous présenter plusieurs des caractères divins, glorieux, du Fils de Dieu qui a déployé ses caractères sous les traits du Fils de l'homme. Hébreux 1 nous parle donc du Fils de Dieu, que Dieu salue comme tel dans son introduction dans le monde, quand il introduit le premier-né, dans la conception de l'homme Christ Jésus, dans le sein de la Vierge Marie. Et Dieu insiste, attention, ne mélangeons pas, ne confondons pas. Lui est mon fils, tu es mon fils. Même si aujourd'hui je t'ai engendré, conçu de l'Esprit Saint, celui qui s'est anéanti, étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, mais en figure seulement, à la ressemblance des hommes, en figure comme un homme. Et Hébreux 1 nous présente donc les gloires du Fils de Dieu qui transparaissent, qui sont données à connaître dans le Fils de l'homme, l'homme Christ Jésus. Alors ce Fils, il a établi héritier de toutes choses, par lui il a fait les mondes, mais ce Fils, apparu comme homme sur la terre, et demeure le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance. Il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. C'est la grandeur, c'est la force, les gloires officielles de notre Seigneur Jésus, avant que le temps fût. Dieu l'avait établi, héritier de toutes choses. Par lui, Dieu a fait les mondes. Comme fils de l'homme, il garde ses caractères de fils de Dieu. Resplendissement de la gloire de Dieu, empreinte de sa substance. Empreinte de sa substance. L'homme Christ Jésus n'est pas tiré de la poussière. Il n'est pas tiré du sol. Il n'est pas poussière, il n'est pas retourné à la poussière. La raison pour laquelle l'homme Christ Jésus ne pouvait pas connaître la corruption. Il n'est pas poussière, il n'est pas tiré de la poussière. La corruption ne peut pas le toucher. Il est le resplendissement de la gloire de Dieu comme homme. Bien sûr qu'il est comme fils éternel, mais comme homme, resplendissement de la gloire de Dieu. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et empreinte de sa substance, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il fallait les yeux de la foi en effet pour le discerner. Il faut nos yeux de la foi dont nous avons besoin pour discerner les traits, les gloires morales et les gloires officielles ici de ce Fils de l'homme qui est le Fils unique dans le sein du Père. Une insistance particulière est donnée, mais comme en passant, sans insister, le sujet reviendra avec la Nouvelle Alliance au chapitre 8 et chapitre 9, ayant fait par lui-même la purification des péchés. Cela nous est d'une sobriété divine. Il a fait par lui-même la purification des péchés. Inutile d'en dire plus que nous puissions examiner chacun des termes. Il a fait par lui-même. Dieu par lui a fait les mondes. Et le Seigneur a créé les mondes par une parole. Il a parlé et la chose a été, il a appelé et elle s'est tenue là. Il a commandé aux vagues et au vent, à la mer et au vent de se taire. Il a enjoint Pierre de venir à sa rencontre sur, en marchant sur la mer. Viens, un seul verbe, viens. Mais quand il nous est dit qu'il a fait par lui-même ce que aucun autre ne peut accomplir. Au verset, chapitre 2, verset 15, il ne prend pas les anges, mais il prend la semence d'Abraham. C'est pourquoi il dut en toute chose être rendu semblable à ses frères. Verset 2, 14. Étant donné que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé. Lui aussi semblablement y a participé, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça, c'est la puissance sur la mort, nous avons rappelé ce matin. Mais ici, par lui-même, c'est-à-dire il n'a pas envoyé un ange, et un seul pouvait le faire. La purification des péchés. Purification des péchés. C'était notre sujet chaque dimanche matin. Et nous ne pouvons en réaliser la valeur et le prix que dans la mesure où nous savons, nous mesurons ce que sont nos péchés et où nous pouvons entrer un petit peu dans ce qu'a exigé cette purification. Alors la suite, tout aussi court et bref, succinct, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts cieux, étant devenu d'autant plus excellent que les anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux. Les anges, des créatures, même sans péché, ne pouvaient pas effectuer la purification des péchés. Il fallait être Dieu pour répondre aux exigences du Dieu juste et saint. Il fallait être homme pour répondre aux profonds besoins de l'homme pécheur. C'est ce que nous présente ce premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Dieu dans sa nature, resplendissement de sa gloire, empreinte de sa substance, la même nature que Dieu lui-même. Et puis, il a fait par lui-même la purification des péchés. Et dans l'Évangile, Jean 12, il nous dit, c'est pour cela que je suis venu sur la terre. Philippiens 2 montre qu'il est devenu homme. Comme homme, il a pris la forme d'esclave, que nous lui avons bien laissé. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Il est devenu homme pour faire la purification des péchés. Alors, Dieu, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux, étant devenu d'autant plus excellent. Devenu nous parle donc de cette incarnation. Devenu nous parle de cet anéantissement de Philippiens 2, étant en forme de Dieu. Il a été trouvé en ressemblance comme un homme, devenu. C'est ce que nous dit le chapitre 2. Le verset 14, les enfants ont eu part, et la note dit bien, ont été placés et sont dans cette condition comme lot commun. C'est ce qui est notre part à nous, en effet. Eh bien, au sang et à la chair. Mais lui aussi, semblablement, y a participé, pris une part en passant. C'est ce que signifie ce « devenu » de Hébreux 1, verset 4. En passant, il a pris la forme d'homme, sans cesser d'être Dieu. Et maintenant, comme homme, et on en reparlera, Il a pris sa place comme Dieu sans cesser d'être homme. Mystère de la personne du Christ Jésus. Premièrement, il s'est assis. Nous remarquons que c'est un acte d'autorité. Lui s'assied. Hébreux 1 nous présente donc la grandeur et la dignité de l'homme Christ Jésus, mais qui est Dieu. De même que l'évangile selon Jean, dont nous avons lu le verset ce matin, nous dit qu'il, ayant dit c'est accompli, il rendit son esprit. De même que Philippiens 2, il s'est anéanti. Ici, Hébreux 1, il s'est assis. Nul ne peut rendre son esprit à Dieu. Je peux me suicider, c'est vrai. Quand nature, la vie appartient à Dieu, le Seigneur, lui, a rendu son esprit. Dans Luc, qui nous parle de l'homme obéissant, il s'adresse à son Père, déclarant qu'il avait recouvré la communion avec Dieu comme Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'homme dépendant, obéissant. Dans Jean, le verset lu ce matin, il rendit son esprit. Ici, en Hébreux 1, il s'assied. En fonction de son droit, en fonction de son autorité, en fonction de sa divinité, comme fils éternel du Père, comme Dieu lui-même, il s'assied. Et il déclare ainsi, ouvertement, que, ayant rempli tout ce qui est dit de lui dans les versets précédents, les différentes gloires que Dieu l'a accrochées, je suspendrai, et c'est ce clou sur lequel Dieu a suspendu toute sa gloire, eh bien, il déclare ouvertement et explicitement qu'il a accompli tout ce que le Père lui avait demandé de faire, et il s'est assis. Ici, c'est l'acte. Dans les trois premiers verset que nous allons lire, c'est l'acte. Il s'assied. L'acte. Hébreux 1, en fonction de sa nature divine, en fonction des gloires morales qu'il a démontrées sur la terre, en fonction de la perfection de l'œuvre qu'il a accomplie, ayant fait par lui-même ce qu'aucun autre ne pouvait faire, nous le comprenons bien, la purification des péchés. Il s'assied. Où ? L'accent est mis ici sur la majesté, on le retrouvera. Majesté. Il n'est pas question du trône ici. Le trône nous parle de domination. Ici, c'est la majesté qui nous parle de la grandeur, de la splendeur, de la souveraineté de Dieu. Imaginons. Si l'on veut essayer de bien capter ce que Hébreux 1 veut nous dire, imaginons le Seigneur levant ses mains en haut, il est béni, et voilà qu'en les bénissant, il fut élevé. Une nuée vint et le ravit devant leurs yeux. Nuée des anges. Imaginons notre Seigneur qui est héritier de toutes choses, qui a fait les mondes, qui est le resplendissement de la gloire de Dieu, qui est l'empreinte de sa substance, qui a fait par lui-même la purification des péchés, ou, si vous me permettez l'expression, je dirais, il est élevé ainsi avec toutes ces valises qui nous sont données là, toutes ces précieuses bénédictions qui sont les siennes, ces caractères glorieux que je viens d'énumérer, mais que les versets que nous avons lus énumèrent, avec tous ces bagages, toutes ces valises, tout ce qu'il emporte. Il arrive et, dans sa majesté, il s'assied. Quelle grandeur. La grandeur de l'homme Christ Jésus, dans la majesté de la divinité qui est la sienne, Dieu manifesté en chair. Alors c'est bien la majesté, parce que lui est la majesté, et tout est grand en lui, tout est grand dans son œuvre. Et le lieu là où il s'assied est grand. il est majestueux. L'accent est mis sur cette majesté où lui, de sa propre volonté, de son propre titre, de ses propres droits, s'assied délibérément. J'allais dire sans rien demander à personne. Bien sûr, ce n'est pas ça le côté. Bien sûr, Dieu, on voit l'Épître aux Hébreux insiste sur le fait que Dieu l'a salué quand il entre dans le ciel. Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais là, l'accent est mis non pas sur ce que Dieu fait de lui, mais sur ce que le Seigneur est, sur ce que le Seigneur a fait, sur les droits personnels de s'asseoir. Nous passons au deuxième passage qui est au début du chapitre 8. Alors on change de sujet. S'il y a quatre passages qui nous présentent le Seigneur assis, c'est qu'il y a quatre côtés différents. Et s'il y a quatre côtés différents, c'est qu'il y a quatre gloires particulières, ce ne sont pas les seules, mais quatre gloires que l'Épître aux Hébreux veut mettre en avant pour montrer aux Juifs qu'ils ne perdent absolument rien de laisser le côté lévitique judaïque pour s'attacher à Christ. Alors Hébreux 8, la somme de ce que nous disons, c'est-à-dire le résumé de cet Épître aux Hébreux. Nous avons vu que l'Épître aux Hébreux n'a aucune introduction, n'a aucun nom d'auteur. Qu'est-ce que l'homme viendrait faire là-dedans, comme dans l'Évangile selon Jean? Qu'est-ce que l'homme pourrait faire? Et l'Épître aux Hébreux nous place d'emblée, j'avais dit, place le décor, place d'emblée, Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises nous a parlé en fils. Voilà l'Épître aux Hébreux veut nous présenter. Dieu nous a parlé en fils. Et donc, qui est ce fils? Quelles sont ses gloires? Alors au chapitre 8, nous arrivons à un deuxième sujet. Le chapitre 1er, je répète, nous a montré ses gloires personnelles. Chapitre 8 nous présente le point culminant ou le résumé. Le résumé de tout ce que nous disons. Alors le résumé, il commence. L'histoire commence où, pour avoir un résumé? Eh bien, elle commence au chapitre 2. Chapitre 2, verset 17. Mais je ne veux pas développer ce côté de la sacrificature en hébreu. Bon, c'est intéressant, puisque c'est l'essentiel de cet épître. Et Hébreux 2, 17, c'est pourquoi il a dû en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin qu'il soit un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu. Dans les choses qui concernent Dieu. Et pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Et puis, on continue. Chapitre 3, verset 1, il est l'apôtre, celui qui annonce, qui représente, et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus. Et puis, nous continuons, chapitre 4, verset 14, « Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas sympathiser à nos infirmités. Mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. » On y reviendra avec lui. Approchons-nous donc avec confiance. Chapitre 5, alors, tout souverain sacrificateur. Chapitre 5, verset 9, alors, ayant été consommé, c'est-à-dire ayant été consacré, accompli tout ce que Dieu lui avait demandé, il est devenu, donc Hébreux 5, verset 9, il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent, l'auteur du salut éternel, étant salué par Dieu. Étant salué par Dieu. Quel honneur! Souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Chapitre 6, c'est un reproche. De toute façon, si vous ne comprenez pas tout ça, c'est parce que vous êtes terrestre et que vous n'avancez pas dans... Vous avez besoin de lait. Hébreux 5, 13, alors que vous devriez prendre la nourriture solide, Hébreux 5, verset 14. Et alors, le chapitre 7 reprend ce que l'apôtre a dû interrompre avec le chapitre 6 pour décrire ce sacrificateur de Melchisédek, roi de Salem. Chapitre 7, verset 3. « Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, lequel, comme sacrifice, demeure sacrificateur à perpétuité. » Il n'est pas dit que Melchisédek n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais c'est une image que l'apôtre, le Saint-Esprit par l'apôtre utilise, quel que soit d'ailleurs l'auteur de cette épître, eh bien c'est assimilé au Fils de Dieu. Donc pour nous faire comprendre la sainte sacrificature de Christ, l'Esprit remonte à Melchisédek, Genèse 14, qui a dîmé Abraham, ce qui est repris d'ailleurs dans le sujet de ce verset 6. Celui qui ne tire pas généalogiquement son origine d'eux a dîmé Abraham, etc. Verset 7, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Et tout le chapitre 7 nous présente les gloires de cette sacrificature de Christ comme Melchisédek. D'où le chapitre 8. Ainsi donc, le résumé, le point culminant de cette épître, de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Un tel souverain sacrificateur, oui, chapitre 7, 26. Un tel souverain sacrificateur nous convenait. Saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, n'étant pas dans la... Mais, etc. Et fin du verset 28, alors la parole de serment établit un fils qui est consommé pour l'éternité. Alors nous avons un tel souverain sacrificateur. Et tout ce que nous venons de dire se ramène à nous. Ah, mais Romains... Hébreux 8 nous dit non. Non, bien sûr que le souverain sacrificateur est fait pour représenter l'homme devant Dieu et représenter Dieu devant l'homme. Il y a la sacrificature d'intercession aaronique, il y a la sacrificature de bénédiction, Melchisédek. Mais tout ceci se ramène à nous. Mais Hébreux 8 nous dit, nous avons un tel souverain sacrificateur qui de nouveau s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Ce qui veut dire que considérez le souverain sacrificateur, non plus tant en rapport avec vos propres besoins, ce qui est nécessaire, ce qui convient, puisque un tel souverain sacrificateur nous convenait. Pour rendre, verset 25, pour sauver entièrement, rendre entièrement parfait ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Bien sûr. Mais l'essentiel, Hébreux 8, c'est que ce souverain sacrificateur, dont l'Épître parle depuis le chapitre 2, eh bien, il s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Et on retrouve le terme de majesté. En contraste avec la sacrificature aaronique. Et puis, il s'est assis à la droite du trône. Et là, on trouve le trône. C'est-à-dire la domination. Donc, à la fois la domination et le gouvernement, le trône, et à la fois la majesté. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, après avoir placé ce souverain sacrificateur, lequel s'est assis de sa propre volonté, de sa propre autorité, à la droite du trône de la majesté dans les cieux, voilà qu'alors l'Épître revient à nos besoins. Ministre des lieux saints, du vrai tabernacle que Dieu a dressé, non pas l'homme. Ce qui veut dire qu'il s'est assis, c'est bien, c'est une récompense, c'est une élévation, c'est une juste récompense, une gloire particulière comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dieu l'ayant salué, tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais la fin de ce verset 2 semble nous dire, oui mais il s'est assis, mais ce n'est pas pour se reposer. Ce n'est pas pour rester indifférent. Non, ministre, serviteur, administrateur. Un ministre est un administrateur d'un ministère, d'une administration, en vue d'un rôle qui lui est donné. Chaque ministre a son rôle. Ici, il est administrateur comme souverain sacrificateur. Et là, on l'a déjà lu et relu plusieurs fois. Que fait-il ? Il intercède. Afin de sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour lui, pour nous. Son œuvre, intercéder, la gloire de sa valeur intrinsèque comme souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, élevé plus haut que les cieux. Et alors il s'est assis en effet sur le trône de la majesté dans les cieux. De quoi manquons-nous ? Je reviens à Hébreux 2, fin du verset 17. Il a été un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Première fonction, si l'on veut. Hébreux 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un. Nous avons, alors insistons, un souverain sacrificateur qui a été tenté toutes choses comme nous, à part le péché. Conclusion. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce afin que nous recevions miséricorde, que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Deuxième fonction. Troisième, fin du chapitre 6. Nous saisissons l'espérance proposée, laquelle nous avons comme une ancre de l'âme sûre et ferme, ancre qui entre jusqu'au dedans du voile où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Chapitre 4, c'est l'ordre aaronique. Chapitre 7, c'est l'ordre aaronique. Il intercède, il nous représente devant Dieu. Fin du chapitre 6, c'est la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire en bénédiction, en bénédiction. Oui, mais la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek s'exercera pendant le millénium. Oui, oui, c'est bien ce que Genèse a en vue. Genèse, oui, c'est vrai. Lorsque Melchisédek est donc introduit, pendant le millénium, oui. Bénédiction terrestre, oui. Mais Hébreux 8 nous dit qu'il est ministre des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l'homme, ce qui veut dire que cette sacrificature selon l'ordre de Melchisédek que Christ a reçue, et qui ne dépend pas d'Aaron, qui ne dépend pas des Lévis, de la descendance de Lévi, eh bien, il exerce déjà maintenant. Où ? Dans les lieux célestes, dans les lieux saints, ce qui veut dire que dans le sanctuaire céleste, et l'Église et chacun de nous qui en faisons partie, qui avons une relation, une position céleste, nous sommes au bénéfice de cette sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et nous pouvons profiter de la bénédiction que notre Seigneur Jésus veut donner déjà maintenant. Nous sommes participants dans les lieux célestes, dans cette relation céleste, dans ce sanctuaire céleste des bénédictions que le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, met à notre disposition. Nous dirions selon le cantique, le Rédempteur nous aime, que nous faut-il de plus ? Le troisième passage, c'est en Hébreu 10. Verset 5. En entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre, en tête du livre, dans l'introduction du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ayant dit plus haut, dans les versets qui précèdent, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi. Alors, il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin d'établir le second. Le côté lévitique est mis de côté, c'est le but de l'épître aux Hébreux, mettre de côté le système lévitique pour introduire toutes les bénédictions que nous avons en Christ, le second. Hébreux 10, verset 10, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés pour l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Un contraste, l'épître aux Hébreux agit par contraste et par analogie d'abord et par contraste ensuite pour bien montrer, pour mettre en contraste les bénédictions que nous avons en Christ et tout ce qui est lié au système lévitique, au système de la loi, au système aaronique. Verset 11, le contraste. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. L'Épître insiste, verset 14, « Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage, car après avoir dit, « C'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-ci, ces jours-là, dit le Seigneur. En mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leur entendement. » Alors il dit, « Je ne me souviendrai plus jamais, absolument plus, de leurs péchés, ni de leurs iniquités, leur marche sans loi, sans frein. » Or là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'action, il s'est assis. Ou à la droite de Dieu. Ce n'est plus la majesté, c'est Dieu en opposition à l'homme, c'est Dieu souverain qui met de côté ce qu'il a établi, le culte lévitique, pour introduire quelque chose de nouveau et de plus élevé comme conséquence ici en Hébreux 10 de l'œuvre de Christ. Alors cette œuvre de Christ commence au chapitre 8 avec la nouvelle alliance. L'insistance est donnée dans tout le chapitre 9 et dans le premier paragraphe du chapitre 10, dont nous venons de lire plusieurs versets. Donc là, nous arrivons à l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ. Verset chapitre 9, verset 13. Si le sang de bouc et de taureau est la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, alors si le sang et si la cendre sanctifient pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant ? Et verset Verset 26. Maintenant, la consommation des siècles, il a été manifesté une fois, une seule fois, pour l'abolition par son sacrifice. Bon, il y a un verset qui m'échappe, mais il me reviendra, on le retrouvera. Donc, fin du chapitre 8, tout le chapitre 9, début du chapitre 10, nous parle de cette seule offrande. Par une seule offrande, par cette volonté, nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Et par verset 14, par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Une fois, une seule fois. C'est l'insistance donnée en opposition au sacrifice mentionné début du chapitre 10, qui remet en mémoire sans arrêt les péchés, puisqu'ils doivent être toujours renouvelés chaque année. Alors ils remettent en fait les péchés en mémoire au lieu de les effacer. Seule offrande, faite une fois pour toutes, nous a rendus parfaits à perpétuité et nous sommes sanctifiés. Quand vous venez de... Vous aviez un travail à faire, vous êtes fixé un travail, quel qu'il soit, physique. Bien, une fois que le travail est fini, ben, on enlève le chapeau, on enlève le tablier et on s'assied. Voilà, et on regarde le travail qui est fait. Bon, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire comme ça. Pour le Seigneur, il n'y a aucune question, aucun regret. Tout ce qu'il a fait, c'est parfait. Une seule offrande, faite une fois pour toutes, il a rendu parfait à perpétuité. Alors là, nous imaginons le Seigneur, reprenons encore un trait trivial, commun, le Seigneur qui a accompli cette œuvre. De nouveau, élevé dans le ciel, qui sur la croix, recouvrant la communion avec son Père, peut dire « c'est accompli ». Père, entre tes mains. Et puis, il est élevé dans la gloire. Hébreux 5, salué par Dieu, souverain sacrificateur. Et puis, il s'assied. Et puis, il constate ce qu'il a fait. Que dit-il ? En venant dans le monde, j'ai dit, me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il est écrit de moi, dans l'introduction. Le grand sujet du livre, c'est moi. Écrit de moi, c'est un peu la somme de Romains, Hébreux 8, verset 1. En entrant dans le monde, il dit, voici je viens. Et puis maintenant, en Jean 17, devançant la croix, c'est comme si là, il s'assied, il regarde ce qu'il a fait. Et puis, il élève les yeux. Jésus, levant les yeux au ciel, dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alors maintenant, que reste-t-il à faire ? Non pas en tant que souverain sacrificateur, ça c'est le deuxième point, c'est fini, l'épître aux Hébreux a passé aux offrandes. Alors maintenant, la victime, disons, s'assied, regarde et dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alors que reste-t-il à faire ? Rien. Donc, ben je m'assieds. Alors que tout sacrificateur se tient debout chaque jour faisant le service, offrant tout souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Où sont nos péchés ? Ils ne sont pas dans le tombeau. Hein. Souvent on dit que, on le trouve écrit d'ailleurs, même dans les conducteurs, on trouve écrit que nos péchés sont dans le tombeau. Non. Non, le Seigneur est entré dans le tombeau en ayant crié, c'est accompli, l'œuvre est faite. Et il dit bien en Jean 14 que le Fils, que le chef de ce monde vient, il n'a rien en moi. Satan n'avait aucun droit sur Christ quand Christ est entré dans la mort. La preuve, c'est que le Seigneur en est sorti victorieux. Nos péchés, eh bien, si l'on prend Michée, si l'on prend d'autres versets, ils sont derrière son dos. Ils sont au fond de la mer. Il a mis Ah ben c'est Hébreux 10, le témoignage de l'Esprit, verset 15. L'Esprit Saint nous en rend témoignage, disant, verset 17, « Je ne me souviendrai plus jamais, absolument plus, de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Il a jeté, Isaïe, tous nos péchés derrière son dos. De nécessité pour nous, quel que soit notre âge, c'est demander à Dieu qu'il nous montre toujours plus précisément l'horreur de notre état comme homme naturel et la grandeur de notre culpabilité comme pécheur. Ce travail a lieu une fois à la conversion, nous sommes d'accord. Mais c'est un travail qui doit revenir. Quand est-ce que l'apôtre Paul dit, écrit à Timothée, en disant que miséricorde m'a été faite, et que lui qui est le plus grand des pécheurs a connu cette miséricorde, à moi qui suis le premier, le plus grand des pécheurs. C'est pas à sa conversion en acte 9. Certainement, il était en prison quand il écrit cela. Donc, il avait 65 ans, 67 ans. Peut-être passons-nous trop facilement sur ce que nous sommes par nature. Une horreur aux yeux de Dieu. Une abomination aux yeux de Dieu. Ce que je suis par nature est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu a en horreur ce que je suis par nature. Et je devrais avoir une horreur de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que j'ai fait, de ce que je suis encore capable de faire. Combien de fois, quand il est question de Tite, 1 Pierre 1, de tout ce qui caractérise l'homme, les œuvres de la chair en Galates, on passe rapidement. Ah oui! Mais c'est pourtant ce qui caractérise ma chair, ce qui caractérise mon homme naturel, ce qui caractérise les œuvres de la chair en Galates, et elles ne sont pas belles. Elles ne sont pas belles. Et nous les haïssons. Romains nous parle des choses pour lesquelles nous avions honte. Romains 6. Donc, premièrement, ce que je suis et ce que je fais comme pécheur, je suis capable de faire. Et alors, je dois être pleinement convaincu et persuadé de ce témoignage de l'Esprit que nous relisons. Il écrit, l'Esprit mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai sur leur entendement, il dit, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et cette déclaration a d'autant plus de prix. Me donne d'autant plus de paix, de tranquillité d'esprit, que j'ai ressenti pour moi-même ce que je suis et ce que l'homme naturel fait. Grandeur de l'œuvre de Christ, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Haïssable, nous haïssant nous-mêmes. Toute la description que le Nouveau Testament donne de l'homme devant Dieu. Finissons-en avec l'homme dont le souffle est dans les narines. Quel cas ferions-nous de lui, Esaïe ? Finissons-en avec l'homme. Allez, qu'il nous débarrasse, c'est vraiment horrible tout ça. Eh bien, ayant fait par lui-même la propitiation pour nos péchés, il s'est assis. Celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Quelle sécurité, quelle tranquillité. Il nous faut passer, oui, l'heure est là, Hébreux 12. Hébreux 12, verset 1er, c'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, L'application pratique, et on rejoint les cantiques que nous avons chantées au début, rejetant tout fardeau et le péché du dehors qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous. La course nous parle d'une marche rapide pendant laquelle on ne se laisse pas arrêter. Si l'on court droit au but, je cours droit au but, dit l'apôtre Paul, on ne va pas s'arrêter sur le bord du chemin pour cueillir une marguerite ou pour manger des framboises ou des myrtilles, parce qu'on ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi on ne laisse pas arrêter par les choses qui sont sur le bord du chemin? Parce que la ressource pour courir avec patience, la course qui est devant nous, la ressource que nous présente Hébreux 12, c'est de fixer les yeux sur Jésus. Et fixer les yeux sur Jésus, il y a une note avec le sens de détourner ses regards d'autres objets, de les fixer exclusivement sur un seul. Oui, mais enfin, il faut quand même bien que je fasse, il faut bien que je réponde à mes besoins journaliers. Il y a l'entretien de la maison, il y a l'entretien de la famille, il y a l'éducation des enfants, il y a ce que je dois à mon conjoint, il y a le travail professionnel, il y a les besoins sociaux, il y a... Oui. Mais avec Christ. Le Seigneur a dressé résolument sa face vers Jérusalem. Fixant les yeux sur Jésus, les détournant de toute autre chose pour les fixer exclusivement sur un seul. Alors on va dire, le seul, c'est le but. On va arriver au but, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est juste. Mais Hébreux 12 ne présente pas comme but les bénédictions. Il nous présente une personne. Quelle différence entre eux recevoir les bénédictions qui nous viennent de Dieu, les reconnaître, rendre grâce, nous attendre à elles, s'il trouve bon de nous les donner. Et puis, ou bien, ne pas s'arrêter aux bénédictions, ne pas s'arrêter à la main qui donne, mais remonter la main jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule, pour arriver au cœur de celui qui donne. Ne nous arrêtons pas aux bienfaits. Ils sont, bien sûr, nous rendons grâce. Bien sûr, nous y sommes sensibles. Nous sommes de chair, nous sommes sensibles. Mais ne nous arrêtons pas aux bénédictions. Remontons à celui qui les donne. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire ». Alors, fixons les yeux sur Jésus. Et voyez que l'apôtre ne minimise pas les difficultés. Il y a le fardeau qui nous... Le fardeau, il n'est pas dit. Le fardeau, ben, il pèse. Il nous empêche de courir. Par exemple, le fardeau nous courbe. Et combien nous sommes sensibles au fardeau. De jour, de nuit, que de fois, pendant combien de mois, le fardeau nous ôte le sommeil, le souci. Pour nous, pour nos maisons, pour nos familles, pour le rassemblement. Et on en perd le sommeil et le fardeau. Alors on le rejette, oui bien sûr, on passe son temps en prière. Rejetant sur lui tout votre souci, oui d'accord, tout ça on le sait. Mais le fardeau nous écrase, nous pèse. Alors faut-il être indifférent? Faut-il fermer les yeux? Faut dire... Demain sera comme aujourd'hui, encore bien supérieur. Mangeons et bourrons, car demain nous mourrons. Demain sera comme aujourd'hui, encore bien supérieur. Non, non. Le fardeau est là. Le fardeau demeure. Mais il faut le rejeter. Alors si je le rejette, le fardeau, je deviens donc indifférent. Non, ce n'est pas le sens. Ça veut dire se décharger du fardeau pour le remettre à un autre. Rejetant sur Dieu... tout votre souci, car il a soin de vous. Je reconnais que ce n'est pas facile. Et puis il y a le péché extérieur. Alors lui, il nous enveloppe. C'est le filet de l'oiseleur. C'est la nasse du pêcheur dans la mer. C'est tout ce que Satan met devant nos pieds pour non pas seulement nous faire broncher, mais pour attacher nos pieds dans un filet. Il nous enveloppe, on est comme lié. Si vous voulez, c'est la toile d'araignée. L'araignée commence par attraper l'insecte dans sa toile. Ensuite, vite, elle arrive, elle enveloppe. Chacun a vu un frelon enveloppé par l'araignée. Et le frelon, il ne peut plus rien faire. Et ensuite, l'araignée le suce. Le fardeau nous enveloppe. Nous ne pouvons plus bouger. Nous sommes pris. Le péché nous enveloppe. Nous sommes pris par lui. Nous ne pouvons plus nous en sortir. Et il nous suce. Une expression de Jacques. Verset 14. Mais là, c'est le côté intérieur. Chacun est tenté, étant attiré, amorcé par sa propre convoitise. C'est ce verset 15. La convoitise ayant conçu enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Le péché nous enveloppe. Comment en sortir? Quel discours a tenu Pierre lorsque, ayant quitté la barque, il va rejoindre le Seigneur, et puis il regarde les vagues, il regarde le vent, il regarde les flots. C'est le fardeau, c'est pas le péché là, mais c'est le fardeau. Est-ce qu'il va tenir un beau discours? Combien de mots y a-t-il en français? En grec, j'en sais rien. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Eh bien, le Seigneur est là. Et c'est son rôle de sacrificateur pour justement sauver entièrement, jusqu'à l'achèvement, ce qui s'approche de Dieu par lui. Le fardeau qui nous écrase, le péché qui nous enveloppe. Alors le Seigneur a connu extérieurement le fardeau et le péché du dehors. Il en est parlé à la fin de ce paragraphe. Considérez celui qui a subi une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même. Et lui n'a jamais été lassé. Lui n'a jamais été découragé. Alors vous, fixez les yeux sur Jésus. Considérez cet exemple. Ne soyez pas lassés. Ne soyez pas découragés. Il est le chef et le consommateur de la foi. C'est le trait principal de ce quatrième point. Premier point, grandeur personnelle. Deuxième point, perfection de son œuvre. Non, deuxième point, souverain, ministre du souverain sacrificateur. Troisième point, Hébreux 10, la perfection de son œuvre. Hébreux 12, le chef et le consommateur de la foi. C'est le dernier témoin qui nous est présenté depuis le chapitre 11. Ayant donc une si grande nuée de témoins, eh bien, arrêtons-nous sur le dernier, sur celui qui est plus grand que tous, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui est arrivé au but et qui nous dit « J'y suis, vous allez arriver, vous aussi, avec moi. » Hébreux 12, c'est la perfection de la foi de l'homme Christ Jésus dans une marche parfaite, lequel a subi plus de fardeaux sur la terre que chacun de nous, lequel a connu la haine, le mépris, l'opposition, la contradiction des pécheurs contre lui-même, beaucoup plus que chacun de nous. Eh bien, il est le chef, celui qui marche devant. Le consommateur, celui qui est arrivé au bout. De quoi? De la foi. Eh bien, cela est un appel à notre foi. Le chef est le consommateur de la foi. Ayez la foi. Marchez par la foi. Fixez les yeux sur Christ. Pourquoi? Où est-il? Ah. Bon, la joie qui était devant lui. La joie de recouvrer comme homme la place qui est la sienne comme Dieu, comme témoin. Mais voyez encore une petite parenthèse. Comme on l'a vu chaque fois dans ces quatre citations, il a enduré la croix. Il n'a pas méprisé. Il a enduré la croix. Et alors la honte, il a méprisé, cela venait des hommes. Et il avait devant lui l'accomplissement de l'œuvre que le Père lui avait donné à faire. Endurer la croix, mépriser la honte. Voyez comment, en quelques mots, la parole est riche pour toucher nos affections et nos intelligences. Et alors, il est assis. C'est un état permanent. Ce n'est plus l'action de s'asseoir qui est mise en avant, comme dans les trois citations précédentes, mais c'est la position. Il est assis à la droite de Dieu, à la droite, pardon, du trône. Et de nouveau, comme témoin, comme récompense de la perfection de sa marche de foi, il est assis à la droite du trône de Dieu, et comme tel, il connaît, il partage cette domination et ce gouvernement. Dieu qui donne ainsi la récompense au vainqueur. Que ces considérations des quatre gloires de Christ, qui est maintenant assis à la droite de Dieu, puissent nous encourager dans notre marche, sachant que nous sommes sur la terre, nous avons eu, nous avons et nous aurons beaucoup de vicissitudes. Le Seigneur les a connues. Le but, afin que vous ne soyez pas là, lassés, étant découragés dans nos âmes. Alors nous disons comme Pierre, Seigneur, sauve-moi.